Nous allons faire un peu un état des lieux. Voilà. Un état des lieux de nos cœurs, de nos vies. Hein, est-ce que je suis bien vivant pour Dieu ou alors ai-je seulement les apparences? Alors c'est une question un peu brute, mais qui a le mérite de poser une bonne base d'entrée. Voilà, c'est pas parce que je viens à l'église, c'est pas parce que j'ai une Bible sous mon bras, c'est pas parce que je fais partie d'une commission ou même d'un conseil ou même si je prêche que je suis forcément vivant pour Dieu. Je peux peut-être en avoir les apparences. Et le Seigneur veut visiter chacun de nos cœurs ce matin et nous montrer comment la vie, sa vie, peut remplir nos vies. Prions. Seigneur, qui suis-je ce matin pour apporter ta parole? Seigneur, tu as parlé à mon cœur. Tu l'as amené, Seigneur, dans des impasses pour que je puisse me voir tel que j'étais. Et je t'en remercie parce que c'est pour bénir à la fin. C'est pour amener ta vie. Seigneur, je te prie de le faire aussi par ce message. Je te prie, Seigneur, d'envoyer, Seigneur, une onction de grâce, une onction de vie sur notre assemblée, sur chacun de nos cœurs, pour que nous puissions vraiment nous tenir vivants devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais peut-être vous lire deux passages de la Bible qui pourraient bien correspondre à ce thème d'être vivant pour Dieu. Ne vous inquiétez pas, au début ça va vous paraître un peu bizarre, mais les explications vont suivre. Premièrement, c'est le miracle du bâton d'Aaron qui prend vie. Je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit un peu petit. Moins là, ça va. Ça se trouve dans le livre des Nombres, chapitre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge, donc un bâton, c'est un bâton de commandement, un bâton d'autorité que chaque chef de clan possédait, selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes, selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. » Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes leur donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Et Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Et le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons. Elle avait produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent ou qu'ils prennent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi et il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Voilà un beau miracle et nous allons en lire un second. Dans le Nouveau Testament, le miracle du figuier qui perd la vie. Le lendemain matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit « Que jamais plus tu ne portes de fruits !» Et le figuier sécha immédiatement. Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent « Mais comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec ?» Jésus leur dit, alors, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Alors vous vous dites certainement, mais quel rapport il y a entre ces deux passages ? Quel rapport il y a entre ces deux miracles ? Eh bien, je crois que le Seigneur veut nous parler ce matin dans le sens de la vie et de l'apparence de la vie. Qu'est-ce qui est vivant aux yeux de Dieu ? Alors, dans ce premier passage que nous avons vu sur ces bâtons, moi j'y ai vu la vie que Dieu donne quand il y a la mort. Le bâton de Lévi était mort, sec. Il avait été coupé depuis longtemps, il avait été peut-être travaillé, ciselé, j'en sais rien. Mais aucune sève, aucune vie. Et dans la nuit, la vie est venue. C'est Dieu qui a donné la vie. Et ce qu'il faudrait que nous puissions retenir ce matin, c'est que nous ne pouvons être vivants que de la vie de Dieu. Nous ne pouvons être vivants que si c'est Dieu qui la met en nous. C'est assez libérateur. Parce que bien souvent, nos cœurs, nos pensées sont formatées selon la pensée du monde. Il faut faire pour vivre. Mais selon Dieu, ça ne marche pas comme ça. Selon Dieu, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la met en nous. Donc, je voudrais que nous puissions voir le Seigneur Jésus mort sur la croix, mort au tombeau. Il n'y a plus rien. Son cœur ne bat plus. Son sang ne circule plus. Mais le lundi matin, ou le dimanche matin, pardon, résurrection. Et c'est la vie. C'est Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et si nous sommes en Christ, ça se passe de la même manière pour nous. C'est ce que nous allons voir par la suite. Donc, pour les êtres humains que nous sommes, il y a... J'en ai sauté une. Voilà. La vie de Dieu pour tous les hommes, quels qu'ils soient, c'est la nouvelle naissance. La vie de Dieu qui vient dans le cœur, dans la vie de quelqu'un, c'est la nouvelle naissance. Et puis, il y a la vie de Dieu pour les croyants que nous sommes. Alors, bon, il y a peut-être quelques personnes qui ne sont pas nées de nouveau parmi nous. Ce message est pour ces personnes-là. Et puis, la plus grande majorité d'entre nous qui sommes nés de nouveau, il y a la vie de Dieu pour nous qui se manifeste par la croix et la sacrificature du Seigneur Jésus. Et nous allons expliquer tout cela. Mais dans un premier temps, la nouvelle naissance. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes parmi nous qui se disent « Mais moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, la nouvelle naissance. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Comment devient-on chrétien ?» Eh bien, nous allons l'expliquer. Alors, la nouvelle naissance, on va se baser sur le dialogue que Jésus a eu avec Nicodème. Jésus a eu un dialogue avec Nicodème dans Jean chapitre 3, qui est merveilleux et qui nous explique très bien ce que c'est. Cette nouvelle naissance, elle est préalable, c'est-à-dire qu'elle vient avant toute chose. C'est elle qui démarre tout. Regardez les deux versets qui sont notés. Dans Jean 3, verset 3, et le deuxième, Jean 3, verset 5, Jésus lui répondit, « en vérité, Nicodème, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir. » Et dans ma première diapo que j'avais fait, j'avais mis le verbe « voir » et le verbe « entrer » en grand, parce que c'est ce qui est important. Voir le royaume de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, on ne peut pas. Donc, si quelqu'un, ce matin, parmi nous, voulait avoir un peu d'éclairage là-dessus, il peut se dire, mais la priorité, d'abord, il faut que je naisse de nouveau. Il faut que le Seigneur me montre comment recevoir sa vie en moi. Elle est préalable. Ensuite, elle est incontournable. Incontournable, ça veut dire qu'on ne peut pas l'éviter. ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, c'est toujours Jésus qui parle à Nicodème, il faut. Regardez le verbe. C'est une nécessité. Il faut que vous naissiez de nouveau. Cette nouvelle naissance, c'est Dieu qui l'a préparée, qui l'a prévue, qui l'a organisée, qui l'a créée pour chaque homme, chaque femme sur cette terre. Il faut naître de nouveau. C'est une nécessité. Elle est personnelle. Alors, elle est personnelle. Il y a des façons de penser, même dans le monde chrétien, qui laisseraient entendre que parce qu'on est enfant de parents chrétiens, parce qu'on a une étiquette protestant, catholique, etc., on est chrétien, on appartient à Dieu. Mais ce n'est pas ce que disent ces versets. Ces versets parlent d'individualité. Si un homme ne naît de nouveau, quiconque croit en lui, tout homme qui est né de l'esprit. On voit bien qu'il y a un côté individuel, une démarche personnelle, quelque chose qui nous concerne chacun individuellement. Et donc nous ne pouvons pas nous référer ni à une entité, ni à une religion, ni à quoi que ce soit pour naître de nouveau. Il faut que nous ayons cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Elle est personnelle. Et puis, j'ai marqué qu'elle est élémentaire, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, élémentaire, mais on pourrait dire elle coule de source. Enfin, Nicodème, tu devrais le savoir. Tu ne sais pas ces choses. En tant que chef religieux, tu devrais lire ta Bible et savoir que j'ai promis dans le livre d'Ézéchiel, vous recevrez une vie nouvelle, elle coulera, etc. Eh bien non, Nicodème avait oublié ça, ou il avait peut-être pas, il s'était pas arrêté dessus. Et peut-être que chacun de nous, ce matin, le Seigneur nous dit, mais tu dois savoir ces choses. Tu ne peux pas fréquenter l'Église depuis un mois, deux mois, trois mois, cinq mois, six mois, et ne pas savoir. Et c'est notre responsabilité à nous, les prédicateurs, d'annoncer ces choses. Tu dois naître de nouveau, ce sera le démarrage de ta vie, ce sera comme ça que Dieu va pouvoir infuser sa vie en toi, mais il faut démarrer, il faut naître de nouveau. Je pense que ça parle ce matin à plusieurs personnes. Enfin, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Voilà. Alors maintenant, on s'adresse à ceux qui sont nés de nouveau parmi nous, le plus grand nombre. Ça paraît paradoxal. La croix donne la vie. Ça ne vous choque pas, cette expression ? La croix donne la vie. Quand j'étais jeune, j'avais un copain. On allait à l'église tous les deux. Et cet ami me disait, mais André, moi je ne mettrai jamais une croix autour de mon cou. La croix, c'est un instrument de torture. On ne peut pas faire ça. Non. Alors ça me choquait un peu qu'il me dise ça, mais je ne savais pas trop quoi lui répondre. Maintenant, je saurais quoi lui répondre. Jeune, je comprenais ce qu'il voulait me dire. La croix, oui, c'est vrai que c'est un instrument de torture. Mais il ne voyait qu'une partie de la vérité. Et je repense à lui. Il me dit, mais tu te verrais te promener avec une guillotine autour du cou ? Il avait des arguments, mais pas forcément les bons. Parce que, nous allons le voir, la croix, effectivement, c'est un instrument de mort, mais c'est un instrument de vie aussi. Regardez le verset où Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Donc là, on voit un phénomène de mort, de croix, mais un phénomène de vie. Et cette vie, c'est celle de Dieu qui va faire un très beau travail dans nos vies. Peut-être il faut éliminer une pensée courante qui, dans ce monde où le fait de porter sa croix est un signe de souffrance vertueuse. Et ça, je pense qu'il faut l'éliminer vraiment, carrément de nos vies. La croix n'est pas le moyen que Dieu a choisi pour expier nos fautes. Le moyen que Dieu a choisi pour expier nos fautes, c'est la croix expiatrice de Dieu, enfin le sacrifice expiatoire de Jésus sur la croix qui a porté nos péchés et c'est ça qui lave nos péchés. Donc la croix n'est pas une souffrance que l'on doit chercher pour sa vertu. Vous voyez un peu des fois des films où on voit des gens religieux avec un fouet qui se flagelle comme ça, avec des clous au bout des lanières pour bien se faire mal, pour bien se faire souffrir, pensant qu'ils pourront peut-être obtenir une expiation ou quelque chose qui, une vertu. Eh bien ça c'est faux, c'est pas bon. Mais pourtant il y a une croix. Il doit porter sa croix. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est ça qui donne la vie. Et nous voulons être des chrétiens vivants. Donc essayons de comprendre la croix. Eh bien la croix c'est tout simplement abandonner sa propre vie, dans le sens de ses propres pensées, renoncer à soi-même, renoncer à son moi. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans nos vies de couple, dans nos vies de frères et sœurs dans l'Assemblée. Si nous abandonnons notre moi, si nous portons notre croix, nous acceptons que l'autre ait raison et que nous, on est pas forcément tort, mais qu'on respecte et qu'on ne défende pas nos intérêts, qu'on ne défende pas notre droit, nos points de vue. Et c'est vraiment une leçon à apprendre dans nos couples, je parle aux jeunes mariés, et pas que. Eh bien, la vie du Seigneur va couler. La vie du Seigneur va couler. Porter sa croix, c'est accepter de ne pas avoir toujours raison et de ne pas défendre ses droits et ses intérêts. C'est la vie du Seigneur qui va couler. Et si nous vivons tous cette dimension-là, l'Église sera vivante. On parle de vie qui jaillit en abondance. Et ça a été un peu le thème de l'année 2025. Et c'est un très beau thème. La vie de Dieu qui jaillit dans nos vies, dans notre Église. Et ça, c'est un chemin à prendre. Ça, c'est un chemin à prendre. Continuons avec Paul, l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 4, 10. Portant toujours, partout, dans le corps, la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. C'est la même pensée. C'est pas la mort dans le sens, c'est dans l'action de mourir. C'est le mourir de Jésus. C'est-à-dire le fait de ne pas défendre sa vie, comme lui est allé à la croix. Il n'a pas défendu sa vie. Il l'a offerte. Mais le résultat, c'est que la vie s'est manifestée. Et nous, c'est pareil. Deux versets après, le 12, « Ainsi donc la mort opère en nous, mais la vie en vous. » Waouh ! Voilà un bon moyen d'être vivant devant Dieu. Voilà un bon moyen d'avoir une église vivante. La vie en vous. Continuons avec Paul toujours. « Je suis crucifié avec Christ. Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. » Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà, c'était la devise de Paul. C'est Christ qui vit en moi. Un autre l'a dit, Jean-Baptiste, bien avant Paul, il faut que lui grandisse et que moi, je diminue. C'est la même pensée. En vérité, je vous le dis, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous voyez, ces vérités-là, on ne peut pas les extraire. Elles se retrouvent dans tous les auteurs du Nouveau Testament. Là, c'est Jean. Et c'est Jésus, d'ailleurs, qui prononce cette parole dans l'Évangile de Jean. Et ça se retrouve. Il y a quelque chose qui doit mourir en nous, ce moi, cet orgueil, cette propre justice, cette propre... Voilà, c'est le travail de la croix. Le travail de la croix dans la vie du chrétien. Alors, cette croix, c'est ton ami ou c'est ton ennemi ? Ami de la croix, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Et pourtant, Paul dit, oui, je vous l'ai dit souvent, je le dis aujourd'hui en pleurant, beaucoup de gens vivent comme des ennemis de la croix de Christ. Donc on peut être soit ennemi de la croix de Christ, soit ami de la croix. Ami de la croix, ce n'est pas ce qu'il faut viser, le côté positif qui est derrière. Il y a le côté négatif, c'est mourir, mais il y a le côté positif, c'est la vie en abondance. C'est la vie qui jaillit. C'est une loi spirituelle. C'est une loi biblique. C'est une loi de Jésus. Si tu meurs, tu vis. Et si tu gardes ta vie, c'est mort. C'est le figuier qu'on a vu tout à l'heure. Suis-je ami ou ennemi de la croix ? Revenons à un couple chrétien. Si le mari meurt à lui-même pour que sa femme vive, et si l'épouse meurt à elle-même pour que le mari vive, vous ne croyez pas que c'est un couple qui va vraiment porter la vie de Dieu ? Nous sommes tous sondés par ça. Vous savez, bon, j'ai 40 cm de hauteur qui me sépare de vous, mais c'est qu'une hauteur physique. Je suis comme vous. Ces choses-là, Dieu me les a dites. Et les enfants, c'est... Comme on le partageait hier avec le groupe de visite, on a partagé un verset. « Je suis fait d'argile, disait Élie à Job, je suis fait d'argile comme toi. » Tout à l'heure, on a chanté « Tu mets ton trésor dans des vases d'argile. » Je suis fait d'argile comme vous. Donc, ce n'est pas une leçon, ce n'est pas quelque chose qui est péremptoire et qui tombe comme ça, comme un couperet. C'est ensemble, nous sommes là devant le Seigneur et nous disons « Seigneur, apprends-nous tes pensées, apprends-nous ta vie, apprends-nous ta parole. » Apprends-nous ton esprit. Ennemi de la croix du Christ. Une autre façon de vivre après la croix, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Jésus notre sacrificateur. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le mot sacrificateur, on ne l'entend pas au journal de 20h. Ça veut dire quoi pour nous en 2026 ? Jésus notre sacrificateur. Évidemment, ça me prendrait trop de temps et je ne le ferai pas, mais ça fait allusion au souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, où il y a des perles, il faudrait étudier le tabernacle, il faudrait étudier tout ça. Tout cela nous parle de Jésus. Mais le sacrificateur, ses vêtements, etc., nous parle vraiment de Jésus. Mais je ne peux pas le développer devant vous ce matin. Mais déjà, ces versets peuvent nous familiariser avec la sacrificature de Christ. Lisons ensemble Hébreux. Tous ces versets sont dans Hébreux. En conséquence, Jésus a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il soit souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés. Mon copier-coller a enlevé le S de péché. C'est pas grave. Verset suivant. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, on en a parlé ce matin. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dans le ciel, au moment où je vous parle, maintenant, il y a un homme. Il y a un homme qui s'appelle Jésus et qui nous porte et qui prie pour nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas livrés à la dureté de la vie, à la dureté de nos circonstances, à la dureté des autres peut-être, nous ne sommes pas tout seuls. Le Seigneur Jésus a fait des promesses. Et ces promesses, c'est « Je suis là pour vous, je vous porte ». Je vous parlais tout à l'heure de l'image du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, Aaron. Il avait, entre autres, comme vêtement, un éphod, et sur cet éphod, il y avait 12 pierres précieuses, là, sur son cœur, là. Et chacune de ces pierres représentait ses tribus, son peuple. Donc on peut faire une analogie avec nous, le Seigneur nous porte tous sur son cœur. Il est notre souverain sacrificateur. Mais pas seulement sur le cœur, il le portait, mais sur ses épaules. Il en avait 6 sur l'épaulette gauche et 6 sur l'épaulette droite. L'épaule, c'est le symbole de la force, de la puissance. C'est lui qui a décidé de vous porter et de ne pas vous laisser en proie, seul et seul, à vos difficultés et à vos faiblesses. Secouru dans vos besoins. Continuons sur ce thème. Ou c'est la pile, ou c'est moi, ou c'est les deux. Alors, est-ce que tu peux avancer d'une diapo? Voilà, encore un verset. Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Nous avons un chemin, nous avons une proximité, nous avons quelqu'un qui s'occupe de nous. Je crois que j'en ai sauté une. Voilà. Mais Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce, un service, un ministère, qui n'est pas transmissible, bon ça c'est une autre pensée, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Là, au moment où je vous parle, si vous approchez de Dieu par Jésus, il vous sauve. Il peut vous sauver du salut éternel, mais de votre situation aussi difficile que vous traversez. Étant toujours vivant pour intercéder. Alors, de savoir que Jésus prie, intercède, c'est une vérité qui doit se graver dans chacun de nos cœurs. Nous, on pense souvent, ah, je dois prier Jésus dans mes difficultés, il faut que je m'adresse dans ma prière au Seigneur. Mais le fait de savoir que lui prie pour nous, c'est beau, c'est puissant. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, c'est-à-dire parfait et puissant. Alors l'apôtre y résume le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est ça que vous devez retenir, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. C'est une vérité chrétienne qu'il nous faut garder dans notre cœur d'une manière très forte, parce que là, on est ensemble, on est bien, on est dans le corps de Christ, mais demain, la vie reprend, on est seul, on a des problèmes. Jésus est là. Jésus est mon souverain sacrificateur. Il est plus élevé que les cieux. Il est assis à la droite du Père. Il est vainqueur, on l'a chanté, et il prie et il intercède pour moi. Donc vous voyez, ça donne la vie. Si nous pratiquons cela, nous vivons. Celui-là, je l'ai lu. Écoutons ces paroles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Souvent, on pense que ces paroles sont l'invitation de Jésus aux pécheurs pour se repentir et pour venir à lui. Mais moi, je crois vraiment que ce verset peut s'adresser à chacun de nous. Venir au Seigneur quand on est fatigué, en tant que chrétien, quand on est chargé, et recevoir son repos. C'est sa sacrificature. Et il nous le donnera, le repos. puis j'ai trouvé un autre verset que je vous cite aussi dans l'Évangile, sur la prière de Jésus. Simon, Simon, tu es en difficulté parce que Satan t'attaque. Il t'a réclamé pour te faire du mal. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Voilà, le travail de Jésus vivant, c'est de donner sa vie en nous. Il prie pour nous. Alors, vous voyez, on est déjà à la conclusion. Parce que l'essentiel a été dit. Mais on va faire un petit appel après. Lorsque je suis né de nouveau, après avoir, je vais lire la conclusion, après avoir donné ma vie à Christ, je veux être une branche vivante. Vous vous rappelez ce bâton dans la présence de Dieu qui reçoit la vie, qui miracle dans la nuit. Je demeure dans la présence de Dieu comme le bâton d'Aaron et je reste attaché au cep comme le serment. Je comprends la croix et je la chéris. Ce n'est pas mon ennemi. Je compte sur Jésus, homme dans le ciel, on vient de le voir, qui prend soin de moi. Ainsi, je ne serai pas un chrétien qui, comme le figuier, a des feuilles, mais pas de vie, pas de figue. Je serai vivant pour Dieu. Est-ce que c'est notre désir ce matin d'être vivant pour Dieu ? Moi, je le crois, sinon on ne serait pas là. Et on a eu quelques pensées ce matin qui ont été développées, qui nous montrent les chemins à suivre pour être vivant. Alors, je vais faire un appel tout simple. Cet appel concerne une personne qui voudrait naître de nouveau, quelqu'un qui voudrait devenir chrétien, qui a compris qu'il faut qu'il y ait un démarrage. Il faut qu'il y ait un jour où Jésus entende « Oui, je veux être ton enfant, je veux me convertir. » Donc, s'il y a des personnes qui sont concernées par cet appel à la nouvelle naissance, vous pouvez venir là, sur ma gauche, et puis quelqu'un viendra prier pour vous. Puis là, devant, et je pense que je vais faire partie de ceux qui vont descendre là, pour qu'on prie pour moi, il y a ceux qui acceptent que la croix, eh ben, elle donne la vie, et que c'est un chemin glorieux qui s'ouvre devant celui qui accepte de mourir à lui-même, dans tel ou tel domaine. Donc, là. Et puis, sur ma droite, on pourra prévoir la prière pour ceux qui ont besoin du souverain sacrificateur, qui sont en faiblesse, qui sont en difficulté, qui ont appris une maladie grave, qui ont appris, qui vivent des difficultés dans leur famille, dans leur couple, avec leurs enfants, avec leurs parents, et qui ont vraiment besoin de la sacrificature du Christ, qui vont passer par la prière des anciens et des frères. Donc vous voyez, très pratique ce matin, très pratique. Quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur, il vient là. Quelqu'un qui a compris qu'il doit être ami de la croix, et non pas ennemi de la croix, et qui sait qu'il va découler une addition de bénédiction dans sa vie, s'il accepte la soustraction, lapsus. Mais c'est aussi une souscription, la croix. Et puis, l'aide du souverain sacrificateur, l'aide de celui qui a dit « Mais je suis avec vous, et je suis un homme qui prie pour toi, qui te porte sur mon cœur, sur mes épaules. » Voilà, donc, exercice pratique. Moi, j'ai terminé le message, mais la réunion n'est pas terminée. Donc, je vais... Viens. Je vais donner le micro à mon frère. Et puis, s'il y a des personnes qui veulent la prière, soit pour donner leur cœur au Seigneur, soit pour la croix, soit pour la bénédiction de Dieu. Et puis, ça peut aller aussi de pair avec l'onction d'huile aussi.
Exactement. Voilà, c'est pour ça. Merci beaucoup, André. Merci. Mais écoutez, je vais demander à la louange de revenir. Et donc, on va procéder à cet exercice tous ensemble. Donc voilà, la vie nouvelle. Je me pose devant le Seigneur et je voulais l'onction d'huile. Et je voulais qu'on prie pour moi parce que j'ai une maladie, parce que je suis tout ce qu'on peut, toutes nos faiblesses. Voilà. Et puis tu nous fais un petit fond. Et puis j'inviterai aussi le conseil à venir, enfin les personnes qui sont présentes, en fonction des, pour venir prier pour ceux qui vont s'avancer. Amen.
C'est un sacré pas de foi de choisir de suivre Jésus. Donc si vous avez envie de le faire ce matin, n'ayez pas peur, venez devant, c'est l'occasion, on veut prier pour vous. Il y a beaucoup, beaucoup de monde ce matin, donc s'il y a d'autres personnes qui veulent venir prier aussi, venez nous accompagner. Si vous avez à cœur de prier pour vos frères et sœurs, venez prier pour eux, pour ceux qui veulent suivre Jésus. Pour ceux qui veulent suivre Jésus, pour ceux aussi qui veulent suivre Jésus de manière plus profonde, et pour aussi ceux qui veulent recevoir l'onction d'huile, venez devant si vous voulez prier pour des frères et des sœurs.